Très bien, merci, merci Oscar. Merci à la librairie James d'organiser ce débat. Oscar Janet le disait, Mirmanda, c'est une revue de culture, mais moi je vais vous parler beaucoup de politique. Hein, je pense que vous en êtes conscient. C'est un fait quand même assez inédit de voir une société passer de 20% de soutien à l'indépendance à 45% en quelques années. C'est ce que j'essaye un petit peu d'expliquer de façon résumée dans cet article. Ce que je vais faire ici, c'est simplement un résumé de façon à pouvoir conduire le débat sur quelques idées clés. Et je crois que ce sera plus intéressant de le faire à travers un récit peut-être de mon parcours qu'on pourrait intituler « Comment je suis devenu indépendantiste ». Et de cette façon, vous verrez donc que c'est un petit peu représentatif de ce qui s'est passé en Catalogne, où beaucoup de personnes qui n'étaient pas indépendantistes de façon existentielle le sont devenues par pragmatisme. Je dois dire que je suis franco-espagnol, donc né en France de parents catalans, de langue maternelle espagnole. Et puis, les évolutions donc, des événements ont fait que je suis devenu indépendantiste au début des années 2000, lors du deuxième gouvernement de José María Aznar. L'article qui est dans la revue Mirmanda, c'est un article qui a été écrit fin 2014, à l'automne 2014. Et donc c'est vrai que c'est une photo finish à ce moment-là. Peut-être que lors du débat, on pourra actualiser parce qu'il y a quand même eu des développements importants qui sont intervenus sur les 6 derniers mois. Alors comme je vous disais, donc franco-espagnol, catalan de langue espagnole, comment je suis tombé là-dedans? Ça s'est fait un petit peu à travers le Québec. En tant que francophone né à Paris, en 90, entre 90 et 95, il y a eu un débat très important sur l'indépendance du Québec qui m'a passionné. Et à cette époque-là, j'étais tout à fait fédéraliste, ici en Catalogne. Plus au proche des socialistes. Et alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on parte de cette situation vers la situation actuelle? Le 9 novembre, j'ai voté si, c'est-à-dire oui à un État catalan et oui à l'indépendance. Il y a différents facteurs qui peuvent l'expliquer. Il y a le facteur identitaire, le facteur économique et le facteur démocratique. Ce que j'essaye d'expliquer dans l'article, c'est que souvent, en fait, en France, on les classe dans cet ordre. C'est-à-dire qu'on pense que ce qui motive d'abord l'indépendantisme en Catalogne, c'est l'identité. Ensuite, l'économie, entre guillemets, l'égoïsme économique, le fait de ne pas vouloir partager. Et puis, on n'est pas vraiment conscient de la dimension démocratique du problème. Et c'est toute cette idée donc, du droit de décider, hein, de l'autodétermination. Alors, effectivement, la dimension identitaire, elle est importante dans le débat catalan. Il ne faut pas se leurrer. C'est quand même quelque chose d'essentiel et de central. Mais, comme je vous disais, donc, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Et je ne suis pas le seul, en fait. 70% des Catalans ont des racines hors de Catalogne, en grande partie dans le reste de l'Espagne, bien entendu. Mais donc la Catalogne, c'est une société qui est passée de 1914 à 2014, donc en 100 ans, qui a multiplié sa population par 4. C'est l'équivalent, sur la même période, des États-Unis. On est passé de 2 millions à 7,5 millions d'habitants. Donc il y a eu un afflux très important de personnes d'autres régions d'Espagne et d'autres pays. Pour comparer, la France, sur la même période de 1914 à 2014, est passée de à peu près 40 millions d'habitants à 60 millions. Donc c'est vraiment un bouleversement démographique qui s'est fait en Catalogne, essentiellement sur la base de l'immigration, parce que la natalité est très basse en fait en Catalogne comme en France depuis très longtemps. Et donc, si on a une société plurielle, comme la société catalane actuelle, hein, donc 30% des personnes seulement qui sont vraiment originaires de la région, 38% des Catalans qui sont de langue maternelle catalane, même si le catalan est parlé par 75% de la population. Dans un tel contexte, ce serait inimaginable que la motivation identitaire suffise à arriver à quasiment 45%, 50% d'indépendantisme. Il n'y a pas en fait que cette dimension qui joue. Mais c'est vrai que cette dimension à jouer. Elle a un rôle, mais quand on demande aux Catalans quelle est leur motivation pour être indépendantiste, quand on demande plutôt aux Catalans indépendantistes pourquoi ils le sont, l'identité arrive en troisième position. Pourquoi il y a en fait ce désir d'indépendance en partie dû à une idée donc de défense de la langue et de la culture catalane, c'est parce que je crois qu'il y a eu un déclic qui s'est fait dans la société catalane, qui remonte quand même maintenant déjà un certain temps, c'est dans les années 90, où il y a eu ce qu'on a appelé la guerra de la lengua, avec donc des attaques assez fortes de la presse de droite madrilène contre la politique linguistique de la Generalitat et la place du catalan dans l'éducation. Et à ce moment-là, c'est un moment, je crois, qui est important de prise de conscience, où beaucoup de personnes comme moi, à l'époque, qui croyaient donc en cette Espagne nation de nations, donc la convivencia donc de tous ces peuples au sein d'un même État, on se rend compte qu'en fait, les choses n'ont pas tellement changé dans les mentalités de certaines personnes depuis la mort de Franco, et qu'il y a donc une difficulté à assumer le fait que l'Espagne soit plurilingue et plurinationale. Donc ça, c'est une première prise de conscience qui a joué un rôle dans mon cas, très clairement, mais qui n'a pas suffi en fait à motiver donc cet indépendantisme. Une deuxième étape, je crois, c'est au début des années 2000, où en fait les indépendantistes catalans gagnent en fait une grande bataille idéologique. C'est en introduisant le thème de ce qu'on a appelé la spoliation fiscale. Ici, on rentre dans le deuxième thème qui est important pour expliquer cette augmentation de l'indépendantisme, c'est le facteur économique. Dans les années 2000-2005, s'installe vraiment dans le débat politique catalan l'idée que la politique économique de Madrid est discriminatoire à l'égard de la Catalogne, une chose qui affecte aussi bien les catalanophones que les hispanophones de Catalogne. Cette spoliation fiscale, elle a été chiffrée. Elle a même été chiffrée par des organismes aussi peu susceptibles d'être favorables à l'indépendantisme, comme par exemple la banque espagnole BBVA. Et donc les chiffres qui sont souvent cités tournent autour de 14 à 16 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 2000 euros par an et par habitant. Qui correspondent en fait à la partie des impôts catalans qui n'est pas réinvestie en Catalogne, mais qui est réinvestie donc dans le reste de l'Espagne. Il faut se rendre compte quand même que c'est des montants qui sont considérables, parce que quand on parle de 2000 euros par an, vous savez, si vous habitez comme moi à Barcelone, que, spécialement maintenant avec la crise, quand on parle de 1000 euros, ici en Catalogne, c'est un salaire moyen, hein, ça n'est pas le SMIC. Hein, beaucoup de personnes gagnent autour de 1000 euros. Donc une perte par habitant de 2000 euros par an, c'est quelque chose qui a été vécu de façon très difficile par la population à partir du moment où il y a eu cette prise de conscience que ce déficit, cette spoliation fiscale telle qu'elle a été nommée, est structurelle parce qu'elle remonte en fait aux années 60 ou 70. Elle n'est pas due seulement aux politiques sociales de l'État espagnol. La société catalane est une société plutôt de centre-gauche qui accepte assez bien, je dirais, l'idée de redistribution. Mais en grande partie, c'est dû à des politiques donc, d'investissement qui privilégient en fait, des décisions plutôt centrées sur Madrid. Un exemple très simple, c'est l'aéroport de Madrid qui a reçu 4 fois plus d'investissements que le nouvel aéroport de Barcelone, alors que le nombre de passagers est exactement le même, hein, et le nombre d'habitants dans les deux conurbations est très proche. Et alors cette idée donc de la spoliation fiscale, elle s'installe entre 2000 et 2005, et c'est une bombe à retardement évidemment, parce que quand la crise se déclenche, c'est quelque chose qui était déjà douloureux quand on s'en rend compte en 2000-2005, mais qui devient insupportable au moment où, en 2010-2011, il faut commencer à faire les coupes budgétaires. Et donc ça, c'est très mal vécu par une grande partie donc, des Catalans. Donc ça, effectivement, ça joue un rôle. Mais quand on demande aux Catalans quel rôle ça joue dans leur indépendantisme, c'est le deuxième facteur. En fait, le premier facteur, c'est le détonant, c'est la difficulté, donc, c'est la volonté de pouvoir décider par soi-même. Parce que, et ça, les sondages le montrent depuis 40 ans, depuis la démocratie, 80% des Catalans sont insatisfaits par le niveau d'autonomie qu'ils ont. Il y a une grande majorité des Catalans qui considèrent que la Catalogne est une nation, autour de 70%, et à peu près 70% donc des députés du Parlement catalan actuel sont favorables au droit de décider. Cette dimension démocratique, vous le savez, elle devient très importante au moment de la négociation du nouveau statut d'autonomie catalan. Et là, on est à peu près donc au début des années 2000, hein, 2005 jusqu'en 2010. C'est un feuilleton, cette négociation du statut d'autonomie. Ce statut d'autonomie, en fait, visait à trouver une solution au sein de l'Espagne pour résoudre les deux problèmes que j'ai mentionnés auparavant, qui étaient devenus des problèmes importants dans le débat politique catalan, c'est-à-dire la protection de la langue et de la culture catalane et limiter en fait la spoliation fiscale ou le déficit fiscal, comme on l'appelle parfois. Et ici, vous savez donc que le statut d'autonomie donc n'a pas été accepté dans les termes qui avaient été proposés à l'époque. Et concomitamment, en 2011, le Partido Popular revient au pouvoir à Madrid, et avec une politique très, très claire, perçue par beaucoup de Catalans comme telle, de recentraliser et finalement de tirer parti de la crise économique trouver une solution au problème catalan, finalement par une recentralisation de l'État. Et là, c'est un détonnant que l'on a vu donc dans la première manifestation en 2010, puis en 2012, cette idée que la Catalogne était confrontée à une fin de la nation. C'était la fin de la Catalogne si on ne faisait pas quelque chose. Et étant donné que l'Espagne avait démontré ne pas vouloir se transformer en un État qui pourrait être aimable à l'égard des Catalans, qui serait également un État pour les Catalans et pas seulement un État pour les Espagnols, la seule solution, c'était l'indépendance, même si c'est un chemin très difficile à faire. Et cette dimension, en fait, de ce que j'appelle dans l'article une révolution tranquille politique, c'est-à-dire un clin d'œil à la révolution tranquille québécoise dans les années 70, hein, où on a vu une augmentation énorme aussi de l'indépendantisme, c'est un aspect qui est souvent négligé, en fait, à l'étranger, et je crois aussi en France. Ce qui s'est passé ici, c'est aussi une révolution des classes populaires et des classes moyennes qui, face à la politique de Madrid et du Partido Popular, ont considéré que la seule façon d'avoir vraiment leur mot à dire dans la façon dont est gérée la Catalogne, c'est d'avoir leur propre État. Donc, je crois que c'est un petit peu, de façon résumée, le message que j'ai fait passer donc dans cet article. Je parlais de du Québec et de la Révolution tranquille. Le Québec a connu en fait un gouvernement conservateur nationaliste dans les années 40, 50, 60, le gouvernement de Duplessis. Et puis ensuite, il y a eu une révolution tranquille dans les années 70 où l'indépendantisme est monté très très vite. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous aurons des élections maintenant au mois de septembre, et je crois qu'on voit beaucoup dans le débat politique cette idée qu'on est peut-être à la veille d'un grand soir et qu'il va y avoir une grande décision qui sera prise, irréversible, vers l'indépendance ou au contraire donc de rester au sein de l'Espagne. Je crois qu'il faut rester très très calme, parce qu'au Québec, en fait, cette révolution tranquille, elle a commencé donc en 1970. On est arrivé rapidement à 40% d'indépendantisme. Et depuis la fin des années 70 jusqu'à maintenant, l'indépendantisme oscille entre 30 et 70%. Donc, si jamais le non l'emporte lors d'un vote sur l'indépendance en Catalogne. C'est pas pour ça, en fait, que le débat et tout ce dont je vous ai parlé maintenant sera caduc, parce que vous aurez toujours une minorité importante d'indépendantistes qui sera présente. Et même si on allait vers un scénario donc d'indépendance, vous aurez toujours une minorité importante d'unionistes. Donc je crois qu'en fait, cette complexité de la société catalane que j'ai décrite, elle est là pour rester. Et dans l'article, j'ai simplement essayé de donner quelques pistes pour pouvoir un petit peu mieux l'interpréter. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais vous dire.
Bon, je vous demande pardon pour mon français parce que je n'y parle depuis longtemps. C'est pour moi une chose intéressante, commencer cette intervention pour parler de Aznar et pour dire merci pour faire des indépendantistes. Jamais pensé que je vais remercier un président du gouvernement espagnol, mais si le mandat du Aznar sert parce que Patrick était indépendantiste, bon, il y a quelque chose que n'est pas mal du tout. Je vous demande pardon parce que je parle, l'unique langue que je parle bien, c'est le catalan. Et la deuxième que je parle bien, c'est la deuxième langue de Paris, qui est le portugais. Et mon cerveau tient en ce moment les liaisons avec le portugais. Bien. La frontière. Qu'est-ce que c'est la frontière? La frontière, c'est une rue. C'est une rue. C'est tout. On doit passer une rue pour changer d'état. On doit passer une rue pour changer d'état mental. C'est simplement ça. Mais la frontière, c'est toujours ce que fait que dans une rue, on parle catalan et dans l'autre rue, on parle français, ou espagnol, ou portugais. Une rue qui fait penser que nous sommes de droite, nous sommes politiquement à la gauche, c'est une frontière, ça. Nous ne sommes pas politiques, c'est une frontière, ça. Nous entrons dans une librairie, nous sommes lecteurs, nous n'entrons pas, nous ne sommes pas lecteurs. La frontière, c'est tout ça, non? Mirmande fait une petite chose très importante, qui est les airs écrire là. Quelqu'un comme moi, non? Parce que je suis simplement un écrivain catalan et je suis, logiquement, indépendantiste. Mais je suis de Mallorca. Et je suis indépendantiste en Mallorca et indépendantiste culturel. Indépendantiste économique, fiscal, parvenus. Les vraiment indépendantistes, nous sommes 300 000. Les millions, je ne sais quoi, quasi 2 millions, non? Indépendantistes sont circonstanciels. Pour moi, sont circonstanciels. Bienvenus, tous, mais circonstanciels. Il y a une frontière entre les indépendantistes de toujours et les indépendantistes parvenus, c'est pour moi il y a une frontière. Il y a une frontière entre les politiques des partis traditionnels ou la politique des partis nouveaux, de Podemos, de la CUP. Il y a une frontière ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une frontière ou non. Mais il y a, pour moi, deux manières de faire les choses. Au plus. Mais je crois que la frontière, les frontières, c'est une chose qu'on traverse tous les jours et n'y pense pas. Ça. Je crois que nous avons toujours frontières grandes, frontières petites. Dans mon thèse, dans mes mandats, il y a une chose que je voudrais laisser bien claire, que la frontière intérieure. Toujours dans la politique, dans le monde de l'indépendantisme, on écoute parler de Barcelone, on écoute parler de la Catalogne, mais je n'écoute pas qu'est-ce qu'on va faire avec le pays valencien et avec les Balears. Dans les Balears, il y a une chose intéressante, parce que peut-être nous aurons le premier président souverainiste en quelques jours. Et peut la Catalogne faire son chemin elle seule? Et la Catalogne Nord? Qu'est-ce qu'on va faire avec Perpignan? Perpignan va demander, dans un hypothétique État indépendant, va demander une annexion à Catalogne, va préférer rester en France. C'est une frontière d'une rue. Je suis ici aujourd'hui par provoquer, non? Par provoquer. L'objectif de mon mandat est provoquer quelque chose dans les cerveaux des lecteurs, toute la revue culturelle ou de culture ont cet objectif, et je crois que mon mandat elle va faire ça avec les lecteurs. Je suis très heureux de que Patrick vient pour l'indépendantisme, mais je ne sais si la raison profonde de cet indépendantisme, si elle va être identitaire, fiscale, un mélange de tout. Je crois que les indépendantistes d'aujourd'hui, ils sont un mélange de tout. Non seulement indépendantistes fiscales, il y a un petit parti que peut-être ils sont indépendantistes fiscales, ils ne sont seulement identitaires, ils ne sont seulement linguistiques, ils sont un mélange de tout. Je crois que dans le futur pays, je suis absolument sûr que la Catalogne va être un État indépendant. Je ne sais pas quel jour, mais je sais sûr que va être. On doit penser bien comment intégrer ces indépendantistes nouveaux. Comment alimenter le désir d'être indépendantiste, d'être parti d'un État nouveau. Et on va parler de la frontière. Si la Catalogne est indépendante et un petit parti de Lleida voudrait ser espagnol, ça va être une nouvelle Ukraine, par exemple, ou ça va être un État très démocratique qui va faire un référendum pour décider si elle va être espagnol. Tout ça, c'est qu'on doit décider. Et tout ça, c'est la frontière. La frontière est une chose terrible. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une frontière entre Barcelone, peut-être gouvernée par Barcelone en Comú, et Badalona, peut-être regouverner pour la droite du PP. Et un rou. Et la même chose, non sé. J'ai découvert aujourd'hui que mon français est beaucoup oublié. Je crois qu'on doit faire une chose intéressante qui est provoquer un débat qui allait à l'heure du conseil d'indépendance même. On doit parler de comment va être le nouveau État. Comment va être la relation entre le nouveau État catalan et la France, par exemple. La France, que si on va à la Rambla Catalunya et va se promener pour l'Ali, on va voir que la France est la référence culturelle, encore aujourd'hui, pour beaucoup de Catalans. Va être encore le référent culturel depuis de l'indépendance, ou il y aura intention avec le territoire de la Catalogne Nord. Je ne sais pas, mais aujourd'hui est un jour important parce qu'il y a une langue que aujourd'hui fait un petit pas pour éviter leur disparition, qui est l'occitan. Une chose très importante comme le fait qu'un homme décide de ne manger pas pour sauver une langue est une chose très importante. Il y a des gens qui font des choses semblantes, prescudes, pour sauver autre chose, Bobby Sands. No? Aujourd'hui, est un jour important parce que il n'y a pas personne morte et il y a une langue en train de se sauver.
Je vais essayer de pas de représenter les 50 000 Français qui vivent à Barcelone, enfin les 50 000 Français qui viennent de l'extérieur, mais en tout cas peut-être apporter un point de vue sur cette communauté française qui est différente avec la radio Equinox, qui est la radio des 50 000 Français de Barcelone. On a l'occasion depuis 4 ans d'être en contact avec tous ces Français. Et on va dire qu'il y a deux types de Français différents. Ceux qui sont là depuis, allez, on va dire 6, 7, 8 ans, etc., qui se sont intégrés, qui comprennent le phénomène catalan, qui vont être pour ou qui vont être contre. Et ensuite, il y a tous les Français qui viennent d'arriver, qui restent un an, deux ans ici. Et il faut le dire, qui ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe, parce que c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, bon, déjà c'était le premier point pour faire un tour d'horizon sur la communauté française. Moi je voulais poser des questions surtout, parce que c'est vrai qu'on a les versions un petit peu polissées de l'indépendantisme ici. C'est vrai. Parce qu'il y a aussi plusieurs facettes, hein, de l'indépendantisme. Un indépendantisme polissé, un indépendantisme qui peut être un petit peu plus radical. Patrick a dit qu'on avait 20% d'indépendantistes il y a quelques années. On est passé à 40%. C'est vrai. Force est de constater aussi qu'il y a une campagne de communication incroyable qui est menée. C'est vrai que les Catalans communiquent beaucoup mieux que les Espagnols, hein, que le gouvernement central de Madrid. Il y a des éléments de langage quand même, hein, qui reviennent beaucoup. Et d'ailleurs, il y a Aurélie Chameroy qui est ici, qui travaille pour des médias français comme BFM, comme Sud-Ouest, etc., qui travaille avec nous. Et les journalistes qui sont venus faire des reportages ici ont remarqué qu'il y avait beaucoup d'éléments de langage, que par exemple des jeunes qui ont 18, 19 ans vont exactement utiliser les mêmes mots que des retraités de 65, 70 ans. Par exemple, comme le droit à décider, la spoliation fiscale, etc., etc. Donc, il y a des éléments de langage aussi, hein, qui peuvent expliquer que l'indépendantisme est monté aussi haut. Et on peut imaginer aussi donc qu'il y a un effet de mode, qu'il y a un effet de contagion. On peut se demander si on met son drapeau catalan à la fenêtre parce qu'on est vraiment indépendantiste, d'un coup on a eu un déclic, ou on a aussi envie de faire comme le voisin et on a envie aussi de se retrouver dans une communauté. Je n'apporte pas de réponse là-dessus, je pose uniquement des questions. On peut aussi, quand on vient de France et qu'on découvre, hein, parce qu'on découvre, pour vous, vous l'avez créé, hein, pour tous ceux qui sont espagnols, qui sont catalans, vous l'avez créé petit à petit ce processus. Nous, on le découvre pour la plupart du temps, et on découvre aussi, par exemple, l'ANC, hein, l'Assemblée nationale catalane, dont fait partie Patrick Roca, qui n'est pas élu. Carme Forcadell n'a été élu par personne, et elle, je dirais pas qu'elle excite la foule, ça va être partisan. Je dirais quand même qu'elle incite, elle a un pouvoir quand même sur le président de la Generalitat, sur Artur Mas, elle a un grand pouvoir dans le débat politique, et elle n'a été élue par personne. Donc voilà, donc ça aussi c'est une question à laquelle on pourrait être intéressant de répondre. Notre ami en a parlé aussi. Pourquoi l'indépendantisme catalan devrait être aujourd'hui les provincias de Lleida, de Tarragone, de Barcelone, de Gérone, et pas aller jusqu'au royaume de Jaume I, hein, en prenant Perpignan, en prenant Valencia, en prenant les Baléares? Bon voilà, ça aussi, question intéressante. Où commence et où s'arrête l'indépendantisme géographique? Nous, on trouve aussi, en tant que médias français, puisqu'on a suivi un petit peu tout ce qui s'est passé avec Artur Mas, le référendum du 9 novembre, etc., etc., en tant que médias, on a remarqué que la vague écossaise a été très, 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 très importante et a focalisé aussi internationalement beaucoup de médias. On se rappelle de la conférence d'Artur Mas, hein, le 9 novembre au soir, quand il a proclamé les résultats, le 10 novembre, le lendemain, où il y avait des médias du monde entier, parce qu'ils ont voulu aussi faire la comparaison avec l'Écosse. Et c'est vrai qu'on a remarqué que quand l'Écosse a dit non, il y a eu un peu une légère retombée médiatique internationale sur l'intérêt de l'indépendantisme. Patrick aussi parlait des... T'as dit beaucoup de choses, hein, donc c'est pour ça que je te réponds à toi, et puis on se connaît aussi. Tu parles aussi de l'immigration, etc., qui est très en faveur de l'indépendance. On peut aussi remarquer, là, d'une manière totalement neutre, que Barcelone, c'est la ville où il y a le plus d'immigrés, et c'est la ville qui a quand même élu, pour l'instant, Ada Colau, qui est contre l'indépendance. Pas en tout cas en faveur du processus, donc on peut imaginer que toutes les populations immigrées n'ont pas forcément soutenu tout ça. Après, quelque chose aussi qu'on a remarqué vraiment en plan médiatique, c'est dans ce que je parlais au début sur le rôle de communication des Catalans, disant oui, mais regardez, nous sommes pacifiques, notre mouvement est pacifique, notre mouvement est bon enfant. J'ai envie de répondre que à l'intérieur de l'Europe en 2015, on peut pas faire différemment que de faire un mouvement pacifique. Voilà, c'est l'Europe aussi, hein, qui pacifie. On n'imagine pas deux pays se faire la guerre, hein, on n'imagine pas l'Italie commencer à faire la guerre en Belgique à l'intérieur de l'Europe. Donc forcément, le conflit politique est obligé d'être d'une manière pacifique. Et il me semble aussi que Madrid répond d'une manière pacifique. Et il n'y a pas eu les tanks sur la... Il n'y a pas eu les tanks sur la diagonale, comme certains l'ont annoncé. Je précise également qu'on peut être modéré sur l'indépendance sans forcément être du Partido Popular, sans forcément être de droite, et poser des questions. Voilà, on ne peut pas arriver en disant l'indépendantisme va tout changer, l'indépendantisme c'est tout rose, etc. etc. Je vais finir par quelque chose d'un peu plus polémique, hein, qui concerne vraiment la population française, mais vraiment française de France. Certains, des fois, on le voit beaucoup moins en ce moment, c'est pour ça que je parlais un petit peu du visage policé de l'indépendantisme, mais c'est vrai qu'il y a quelque temps, on voyait quand même des affiches dans la rue qui parlaient d'occupation espagnole. Donc, qui dit occupation espagnole pour se débarrasser de l'indépendance parle un petit peu de colonisation. Hein, on peut imaginer que certains ont quand même dit que la Catalogne était colonisée par l'Espagne. Et pour certains Français qui ont connu la guerre d'Algérie, bah voilà, le lien peut se faire entre décoloniser l'Algérie qui était colonisée par la France et la décolonisation, la supposée décolonisation espagnole. Et certains pourront faire le lien. La dernière fois que l'hymne a été sifflé en France lors d'un match de football, ça a été dans un match France-Algérie, c'est-à-dire la France avec son ancienne colonie espagnole. Et là, on a vu de nouveau des sifflets entre Barça et Bilbao. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut faire un lien, dire c'est des sifflets contre le colonisateur, etc., etc. Voilà. Moi, je prends pas position à titre personnel. Equinox est totalement neutre. Patrick peut en témoigner. Les indépendantistes, comme les anti-indépendantistes, ont toujours pu passer sur Equinox Radio. Après, voilà, c'est des questions, je pense, qui, des fois, sont un petit peu évacuées. C'est des questions, quand même, qui sont complexes, qui sont profondes, et j'aimerais pas, ou on n'aimerait pas, qu'on y réponde avec uniquement des éléments de langage et qu'on s'arrête pas uniquement avec le droit à décider, ou voilà, avec simplement quelques formules.
Bon, bonjour. Tout d'abord, je ne suis pas un auteur de ce numéro de la revue que je salue avec beaucoup d'intérêt, que je connaissais par Thomas Perrin, un des auteurs. Puis la deuxième chose, c'est que je représente ici l'association d'amitié franco-catalane Dialogue. Et donc je dois excuser son président Joaquim Llimona qui est en déplacement aujourd'hui. Il ne pouvait pas se rendre ici. Moi, je suis le secrétaire du conseil d'administration. Il y a aussi d'autres membres de Dialogue. Et je vous invite aussi à connaître l'association en tant que Français, en tant que Catalan, donc qui ont intérêt à se connaître mieux et à faire des choses ensemble. Quelques petits points pour dire que Dialogue a été créé en 1987, qu'effectivement c'est une association d'intérêt de relations entre la Catalogne et les Catalans et la France et les Français. Donc ce qui est déjà une sorte de volonté de dire voilà, c'est la Catalogne qui se met au même niveau que la France dans ce type de rapport. Et puis juste un peu de publicité, si vous permettez, parce que le 18, et en plus l'organisateur de cette séance va participer aussi, le 18 juin avec le Centre d'histoire contemporaine de Catalogne, on organise une séance Catalogne et France, regard croisé. Et justement, on essaye de voir à partir de certains épisodes historiques comment sont interprétés d'un côté et de l'autre. Parce que parfois, il y a la méfiance, il y a des mauvaises interprétations, et donc on essaye de connaître. Maintenant, on va voir si on peut la continuer le cours prochain, mais de faire quelques épisodes et connaître quels sont les points de vue d'un côté et de l'autre. Bon, alors là, je laisse un peu mon chapeau Dialogue et je prends un chapeau personnel tout à fait, donc je n'engage pas l'association Dialogue pour essayer de commenter quelques questions de mon expérience particulière et aussi essayer, pas de répondre aux questions, mais en tout cas de faire quelques notes. Alors, ma première question vient d'un thème qui a été soulevé par Benassar et qui me tient beaucoup au cœur. Et c'est justement aujourd'hui un jour de joie pour la langue occitane. Moi, je voulais prendre cet épisode qui a une fin pour l'instant joyeuse. Pour l'apprendre du côté de comment en France sont perçues la question des langues régionales. Donc qui est toujours une question très très secondaire, même à essayer d'éliminer, et qui a beaucoup de difficultés d'arriver vers un discours plus national, plus général en France. Et par exemple, à David Gross-Claude, la question qu'il soulevait pendant ce jour, c'était que ça n'arrive pas aux médias parisiens. Ça reste une chose vraiment très régionale. Et donc, il fallait faire un effort très, très important pour que ces questions arrivent au niveau national. Alors, pourquoi? Bon, parce qu'en France, on connaît, vous connaissez bien, c'est une structure centralisée, c'est jacobin, c'est la langue française dominante, etc. Donc ça a créé un modèle. Et ce modèle, c'est le modèle qui a été pris en Espagne à partir du XVIIIe siècle avec l'arrivée des Bourbons. Bon, c'est une des thèses, les historiens en diront d'autres choses, mais c'est une des thèses le plus connue. Donc la vision qu'on a en Espagne de l'Espagne, c'est l'Espagne, c'est comme la France. Mais à l'inverse, c'est pareil aussi. C'est-à-dire que quand on regarde l'Espagne à partir de la France, l'Espagne, c'est comme la France. C'est-à-dire que bon, il y a des régions, il y a des langues régionales, tout ça. Donc, c'est difficile pour un Français, disons moyen, je sais que cette expression plaît beaucoup en France, pour un Français moyen, c'est difficile de comprendre ce qui se passe en Catalogne à partir de cette approche, l'Espagne, c'est comme la France. Parfois, j'interviens dans des cours, dans des universités ou des ministères pour expliquer comment ça marche, l'organisation de l'administration publique en Espagne avec les autonomies et tout ça. Ils ont des difficultés à comprendre parce qu'ils sont sur le schéma régional français avec tout ce qui suppose, donc de, par exemple, du budget régional. Le budget régional est à peine 2% du total du budget des dépenses publiques en France. Donc ça, si on applique en Espagne, ça ne marche pas. C'est complètement différent. Si en plus, ici, en Catalogne, on parle de nation pour la Catalogne, alors là, c'est très très difficile à suivre pour ce Français moyen. Donc voilà cette première question à laquelle je voulais faire référence. Puis, sur la question spécifiquement de l'indépendance de la Catalogne, de la possibilité d'indépendance de la Catalogne, et comment cette possibilité est perçue en France. Bon, depuis Dialac, on a essayé de suivre un peu la question. On organise parfois des séances un peu comme celle-ci, mais avec une table au milieu pour manger. Et on a invité donc plusieurs personnes pour traiter le sujet. Une de ces personnes, peut-être que vous connaissez, c'est Éric Bazin, un journaliste à Paris, donc qui est venu nous expliquer un peu la vision vraiment parisienne. Et plus récemment, un autre journaliste, un peu à la retraite, c'est Marty Anglada, qui maintenant a un autre chapeau parce que c'est le délégué de la Generalitat en France. Donc, pour suivre justement comment en France est perçue cette question de la possibilité de l'indépendance en Catalogne. Bon, finalement, bon, il y a beaucoup d'anecdotes, même personnelles. On en a parlé, c'est écrit un peu dans ce numéro. Ça commence très lentement. C'est une question qui n'intéresse pas vraiment parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile d'arriver à Paris. Petit à petit, ça commence à surgir une espèce de curiosité. Et donc, chaque fois que je vais à Paris maintenant, et alors, comment ça va? Quand est-ce que la Catalogne va devenir indépendante? Tiens, c'est la première fois qu'on me demande ça. Il y a 10 ans, on ne savait même pas que je parlais une autre langue que l'espagnol. Bon, donc, on voit qu'il y a doucement cette question-là, mais ce qui insiste beaucoup, par exemple, Marty Anglada le fait beaucoup, là, pour la France, la question principale, c'est la question démocratique. Donc, au moment où il y aura un mouvement démocratique suffisamment révélateur de l'opinion catalane, alors là, la France sera sensible. Bon, c'est provocateur aussi, je le laisse sur la table. C'est une hypothèse. Mais voilà. Donc, je pense que cette curiosité est de plus en plus forte. Et puis, permettez-moi de répondre à deux questions qui ont été soulevées dans cette table. L'une, c'est sur les campagnes de communication. Je ne suis pas tout à fait d'accord que le camp catalaniste, pour dire quelque chose, ait le monopole de la campagne de communication sur ces affaires-là. Simplement, je vais donner quelques exemples rapides. Il y a autant ou beaucoup plus de médias de l'autre banc que du banc catalan. et puis surtout que le banc, disons, espagnol, compte sur d'autres instances que les médias. Par exemple, les juges. Par exemple, la police qui est en train de faire une guerre sale. Et on l'a vu dans plusieurs épisodes. L'armée que, de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit que peut-être il pourrait faire quelque chose. Donc, je pense qu'on n'est pas dans le même ordre de grandeur des campagnes. Et puis, donc voilà, c'est provocateur aussi. Hein. Et puis, ma dernière question, c'était sur la migration. Moi, je le vis un peu de l'intérieur. Je suis catalan et donc je parle avec tout le monde. J'ai des amis indépendantistes catalans et non indépendantistes très, très catalans. Et je connais ou j'ai des amis indépendantistes d'origine non catalane et d'autres qui sont d'origine de non indépendantistes d'origine non catalane. En fait, si on voit les différentes associations, disons, civiles qui se sont organisées, dont vous avez parlé de l'ANC, mais il y en a d'autres, comme Société civile catalane, comme Sumate, par exemple, qui seraient plutôt des gens d'origine non catalane, mais qui sont pour l'indépendance. Donc, cette complexité de la société catalane, on la retrouve aussi dans ces organisations, ces structures qui ont été montées dans les dernières années et qui sont de tous bords. Voilà donc pour lancer la question.
Oui, je voudrais répondre un petit peu aussi à quelques questions de Nicolas Salvado qui, comme d'habitude, pose les bonnes questions. Hein, et ça, c'est très important comme, pour un journaliste parce que ça, je crois que ça permet de répondre à, au-delà de ce qu'on a exposé, des questions que vraiment se posent les Français. C'est vrai que sur les éléments de langage, ça a été analysé en fait par des politologues que le mouvement indépendantiste catalan, ce qui est assez remarquable, c'est la façon dont il a transformé en fait sa communication à partir de 2009-2010. Si vous étiez donc déjà en Catalogne avant 2008, vous rappelez certainement de l'expression qu'on utilisait « el català emprenyat », hein, donc le catalan en colère contre le manque d'investissement de Madrid, les retards de la Renfe, etc. Et donc il y avait une colère, mais ça restait de la colère. Et c'était souvent négatif, donc le rejet de l'Espagne était exprimé de façon négative. Catalonia is not Spain, hein, cette campagne des années 90, qui est une négation, hein, c'est une phrase négative. Et à partir de 2010, en fait, ce qui se passe, c'est une positivation du langage. Donc on va construire notre État catalan. C'est arrêter de se plaindre de ce qui ne va pas en Espagne pour commencer à penser, à rêver, diront certains, de ce que serait un État catalan indépendant. Et ça, c'est une révolution importante. Et il a d'ailleurs été observé qu'un des succès de Podemos, hein, depuis un an, c'est aussi cette modification du langage, le fait d'utiliser des éléments de langage pour décrire la réalité avec l'expression « la casta », etc. Ça fait partie du débat politique. À partir du moment où on situe les mots-clés dans le débat et on en fait le cœur du débat, on est en train de gagner l'opinion publique. Et c'est ce que les indépendantistes ont fait de façon intelligente. Il faut le reconnaître. Et s'il y a eu une réponse importante de la population, c'est qu'il y avait déjà une situation qui était favorable à l'acceptation en fait, de ce nouveau langage indépendantiste. Et je suis d'accord aussi sur le fait que, en ce qui concerne la campagne de communication, il ne faut pas négliger le fait que l'Espagne est très puissante au niveau des médias. Si en fait on est arrivé à un plateau d'indépendantisme depuis 2 ans, hein, on est autour de 40, 45, 50% et qu'on ne va pas au-delà, c'est bien parce que les médias espagnols, faits et pensés à Madrid en espagnol, ont une part de marché énorme en Catalogne. Et donc une association comme l'Assemblée nationale catalane n'arrive pas à toute une partie de la population qui ne regarde pas les médias en catalan. Et donc ça, c'est, je veux dire, la campagne de communication de Madrid est excellente, hein, à mon avis. Par ailleurs, en ce qui concerne donc l'ANC, c'est vrai que l'Assemblée nationale catalane, donc c'est une association, hein, donc elle, Carme Forcadell, donc elle avait été élue uniquement par les adhérents. Les adhérents et les sympathisants de l'ANC, c'est quand même 70 000 personnes. Société civile catalane, donc qui est le pendant unioniste, a à peu près 500 adhérents et beaucoup de subventions de Madrid, soit dit en passant. Donc l'ANC a uniquement la force du nombre de personnes qui la soutiennent. C'est assez remarquable qu'à un moment où la politique est en discrédit un petit peu partout en Europe, il y ait tellement de personnes qui consacrent des heures et des heures toutes les semaines à soutenir une cause. Et encore un point sur l'immigration, dont tu en parlais, Barcelone. Je suis assez d'accord avec toi. À mon avis, c'est une des difficultés un des défis du mouvement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hispanophones qui sont favorables à l'indépendance, mais on doit encore beaucoup augmenter l'indépendantisme dans ce segment de la population si on veut réussir à avoir une très large majorité pour l'indépendance. Parce que je crois que, en dépit de ce qui se dit dans les médias, les résultats des dernières élections municipales sont sur certains aspects un petit peu préoccupants. Peut-être pas tellement à Barcelone, mais quand on regarde l'Hospitalet, Badalona, hein, donc la deuxième et la troisième plus grande ville de Catalogne, ça n'est pas Lleida et ça n'est pas Tarragona, mais c'est l'Hospitalet et Badalona. Et les partis indépendantistes sont une présence tout à fait symbolique dans ces villes-là. C'est une situation quand même très différente de celle du Québec, où on a 80% de francophones. Hein, ici, on est quand même dans une situation où on a une présence très importante des personnes de langue espagnole. Et le fait de réussir à convaincre ces Catalans donc du fait que l'État catalan sera une amélioration, sera un progrès pour eux, c'est absolument central. Alors, sans vouloir abuser, un tout dernier point, mais alors par rapport à Sébastien Benassar, sur Els Països Catalans, hein, donc les pays catalans, donc Valence, les Baléares, la Catalogne Nord. À mon avis, hein, une des choses les plus remarquables des élections du 24 mai, c'est les résultats à Valence et aux Baléares. Hein, le fait que les partis progressistes et les partis autonomistes sont devenus majoritaires. Moi, je suis en fait la situation en Catalogne depuis le milieu des années 90. Jusqu'à maintenant, je n'avais connu que le Partido Popular à Valence. Je n'ai rien connu d'autre. C'est quelque chose d'absolument inédit pour moi de voir un parti autonomiste comme Compromís arriver au pouvoir à Valence. Est-ce que ça va être favorable ou défavorable au débat de l'indépendance ? Je réfléchis souvent en fait à la situation catalane à travers le prisme du Québec. Et c'est vrai qu'au Québec, la question de ce qu'on appelait les francophones hors Québec, ça avait joué un rôle en fait dans le référendum en 95 et dans la défaite du oui. Vous avez 6 millions de francophones au Québec, 1 million hors du Québec. Et un des arguments donc des fédéralistes, c'était de dire, si on se sépare, en fait, on va laisser ces pauvres francophones hors Québec complètement noyés dans une masse anglophone, et il vaut mieux pour la langue française rester ensemble. Je crois que c'est quelque chose qui sera intéressant à suivre, comment le fait pour la Catalogne de ne plus être entouré par des régions gouvernées par le PP très hostiles à la langue catalane, mais au contraire d'avoir des gouvernements entre guillemets amis aussi bien à Valence qu'au Baléares qu'en Aragon, comment ça pourrait éventuellement modifier la donne en Catalogne.
Seulement une chose, je ne sais pas si à la Colau et on est indépendantiste. Elle disait qu'elle a voté sí pour l'indépendance dans un référendum. Sí. Il y a procès constituent dans la mélange de partis, procès constituent, le parti politique de la Monja Forcades. Je suis très, très préoccupant parce qu'elle va être peut-être président de gouvernement, mais le processus constituant et indépendantiste, il y a des autres formations dans, même dans les formations comme Izquierda Unida, il y a une partie des gens qui est indépendantiste. Sur les 45% des indépendantistes, c'est vrai, il y a un 45% des indépendantistes, mais il y a plus de 68 députés indépendantistes. Ça, c'est la question. Si il y a peu d'indépendantistes dans Badalona et dans l'Hospitalet, pour moi, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est s'il y a beaucoup d'indépendantistes à Berga, s'il y a beaucoup d'indépendantistes à Lleida, s'il y a beaucoup d'indépendantistes à l'Alta Ribagorça, dans le rere país. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de députés qui on doit être peu vote pour être légers. Et s'il y a 68 député indépendantiste, on doit faire une déclaration unilatérale d'indépendance et ça finit le problème. Indépendamment de 40% ou 20%, non, ça c'est les élections ont une règle, les règles sont connues par tous. On peut faire une immigration massive d'Espagnols pour Berga, par exemple, pour éviter ça. Mais les règles, c'est ça. S'il y a 68 députés, déclaration unilatérale d'indépendance, et c'est fini le problème. C'est fini ou commence le problème. Je ne sais pas. Hein? Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi non fait encore ça. Ça. Et je sais pourquoi, parce qu'il y a tous les gens d'Union qui ne savent pas si ils sont ou non indépendantistes. Mais les autres, c'est ça. Dans cette élection du 27 de septembre, les partis Convergència et Union, je crois que va être Convergència, va participer avec un programme indépendantiste. Et on doit compter au fond et faire ça.
Perquè ho esteu gravant.
Sí.
Ah, vale. Ah, li tinc que tornar.
Sí.
Ah, sí, tinc que parlar fort. Je vais parler français hein, aussi. Je vais essayer si j'ai pas oublié. Je pense que bon, on est dans une librairie française, je crois. Bon, bilingue, parce que je crois trilingue, non? Il y a espagnol, français. Je crois que la chose qu'on devrait faire ici, c'est essayer de faire un effort de abstraction hein, et penser dans ce qui se passe en Catalogne dans un contexte global. Je crois que, par exemple, les mêmes problèmes qu'on peut analyser ici sont actuellement en train de passer en France. La question identitaire, la question politique et la question économique. Si, on ne peut pas comprendre le Front National sans ces trois éléments. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a... Il y a une incapacité de penser... ces problèmes par la question de la frontière, parce qu'il y a une frontière, il y a une frontière politique entre l'Espagne et la France, entre la Catalogne et l'Espagne. Et la frontière fait comme un mirage. Le mirage que c'est quelque chose de différent, ce qui se passe ici. Mais c'est exactement la même chose qui s'est en train de passer en France. Alors, une question très banale, c'est qui la communauté française en Barcelone? C'est qui? C'est qui? C'est les francophones, c'est les immigrants assimilés de la colonisation française qui vivent à Barcelone, mais qui n'ont pas la citoyenneté française. C'est qui? C'est une question qui doit être posée de la même façon, qui doit être posée la question qui a été expliquée par Patrick Roca, je crois, qu'on doit pouvoir distinguer. Alors, je crois que plutôt que penser si les Français comprennent ou ne comprennent pas ce qui s'est en train de passer ici, c'est que je crois que les Français est arrivé le moment pour eux de répondre à des questions qu'ils n'ont jamais pas voulu répondre. Et il y a des développements en France qui sont en train de se passer, on pourrait en parler si vous voulez, adresse le même problème qu'il y a là. Et par contre, la forme qui a été adressée en France correspond à un paradigme qui ne passe pas ici. C'est le paradigme de l'État-nation. Et c'est ici la nouveauté. C'est une nouveauté qu'il faut essayer de comprendre. Et dans ce sens, je crois que ce qui se passe en Catalogne, c'est peu être une expérience pour les Français pour se demander à eux-mêmes comment ont-ils constitué ce que c'est la France.
Est-ce que je peux parler ? Hein ? Bon, alors, je suis de Dirlac, je suis franco-catalan, donc les biculturels. Alors, il y a une première chose, il faut revenir aux origines. Il y a un général espagnol député au Parlement, qui après une polémique contre la Catalogne, s'est levé et m'a dit « Señor compañeros, je tiens à vous dire, la Catalogne peut vivre sans Castille, Castille peut vivre sans Catalogne. » Et ce général, c'est Prime. Ce n'est pas un imbécile. Bon, premièrement, les Catalans sont espagnols pour le justo derecho de conquista. Regirán en Cataluña las leyes y fueres de Castilla. Queda suprimido el Parlamento, etc. Donc, et ça, c'est le seul pays en Europe où ça existe encore. Premièrement, on peut, en tant que Français, parce que je le suis, je ne peux pas m'en cacher, on ne peut pas le comparer avec l'histoire française. Le centralisme français, le centralisme qu'on nous a appris au lycée, le centralisme qu'on respire. Par exemple, je peux raconter des tas d'histoires, j'ai beaucoup vécu là-dessus. Donc, ce n'est pas comparable. Je connais le Québec, c'est totalement différent. Totalement différent. Parce que, on ne va pas parler sur la différence du Québec et sur l'Écosse. Parce que les Écossais ont construit avec les Anglais et les Gallois un empire ensemble. Les Catalans, non. On les a foutus dehors. Vous avez qu'à lire un livre de Trueta, le fameux chirurgien Trueta, qui vous donnera les réponses. The Split of Catalonia. Quand il vous raconte ce qu'a été la Catalogne et toutes les tentatives qu'il y a eu pour avoir un dialogue avec le gouvernement central, c'est impensable. Vous croyez que, par exemple, le port de Barcelone, pour se développer, dépend de Madrid ? C'est une couillonnade. Hein ? Mais ça, ça existe. Hein ? Je ne vous parle pas des autoroutes. Je ne vous parle pas... On en a marre. Les Catalans, on en a marre. Ils n'ont pas simplement le fait de bouillard de payer une sexe. D'ailleurs, on doit payer, mais qu'on nous laisse respirer. Alors, la position des Français, donc je représente, enfin, si vous voulez, eh bien, beaucoup sont très, très intégrés, beaucoup sont déjà des troisième et quatrième générations. Et les Français qui viennent ici pour le travail, ils se plaisent beaucoup à Barcelone. Ils ne se préoccupent pas beaucoup de la politique. Enfin, c'est mon point de vue.
Non, je voudrais répondre au monsieur qui demandait ce que c'était la communauté française de Barcelone. Justement, je l'avais séparé en trois parties au début de mon intervention. Les premiers, c'est les francophones, comme Patrick Roca, par exemple, qui sont espagnols, mais totalement francophones. Il y a une deuxième partie de la population française qui, comme disait le monsieur à côté de vous, qui est là depuis 10, 15 ans, qui est totalement intégrée. Et après, il y a d'autres parties qui font un petit peu des va-et-vient, qui viennent ici, qui restent 6 mois, qui reste un an, qui reste 2 ans et qui sont beaucoup moins impliqués dans la politique, soit ils ne la comprennent pas parce qu'elle est quand même très très différente de la politique française ou tout simplement ils ne s'intéressent pas. Mais c'est vrai que vous avez raison, hein, la communauté francophone n'est pas un seul bloc, sinon les francophones, les français qui sont là depuis des années et ceux qui sont fraîchement arrivés. Il faut vraiment les dissocier parce qu'ils ne pensent pas de la même manière. Et de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait une façon unique des français de penser à Barcelone. Et comme tout peuple, bah, tout le monde pense différemment et c'est un peuple très divisé sur la question.
Par rapport au Québec, simplement, oui, c'est vrai que les situations sont différentes. Je l'ai mentionné aussi au niveau démographique. C'est peut-être plus l'Espagne qui n'est pas comme le Canada que le Québec qui n'est pas comme la Catalogne. Hein, parce que si je regarde un petit peu le fil des événements au Québec, ce qui est quand même spectaculaire, c'est qu'au moment du référendum en 95, il y a une vraie opération de séduction des Québécois par les Canadiens qui se met en place. Une fois que le nom est passé, il y a eu une reconnaissance symbolique du fait que le Québec est une nation au sein du Canada. Et ça, cette opération séduction, c'est vrai qu'avec Rajoy, je crois qu'on peut l'attendre très très longtemps.
Merci. Achille. Directement. Moi, je voudrais modifier un petit peu votre réponse parce que j'ai une autre expérience avec la communauté française que je connais d'une autre façon. C'est-à-dire, vous donnez une réponse, je ne sais pas si vous avez des chiffres, vous avez parlé de 50 000 personnes. Moi, dans cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses au sujet de la France, pas de la Catalogne. Et je voudrais compléter un petit peu les deux commentaires que les messieurs ils ont faits. Je perçois deux points de vue assez différenciés de la sensibilité française, si vous voulez, par rapport à la question catalane. Je suis très content de voir qu'il y a d'autres façons de s'exprimer. Par exemple, le récit que vous avez fait de votre transformation, de votre sensibilité, ça me paraît une nouveauté. C'est-à-dire pouvoir être dans une conférence, écouter un point de vue que je connais par d'autres expériences personnelles que j'ai eues, ou les données que monsieur a expliquées au sujet de la différence dont les institutions catalano-françaises sont en train de réfléchir à ce sujet. Vous avez cité certaines personnes qui sont en train de travailler en France, à Anglada, votre expérience personnelle. Et je voudrais vous poser certaines questions parce que je ne sais pas. C'est-à-dire, monsieur, il a dit, c'est qui la communauté française à Barcelone? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait définir un petit peu plus? C'est vraiment représentatif de toute la société française, la communauté française à Barcelone, où c'est seulement où on pourrait parler d'une typologie de gens, et surtout si les institutions françaises qui travaillent à Barcelone, l'Institut français, le lycée français, votre revue, ne seraient pas, disons, dans un axe politique très marqué. C'est-à-dire, pas politique en général, mais culturel en tout cas. C'est-à-dire, si vous viendrez dans un élan trop fort de culture francophone basée sur un État super fort, qui conçoit la région d'une façon très particulière, et donc il y a une, je pense, mauvaise compréhension de ce qui est en train de se passer ici.
Donc, merci pour la question. Donc, je répète qu'en fait, il y a la communauté française n'est pas un seul bloc. Beaucoup pensent différemment. Après, vous avez raison sur les politiques françaises et sur les institutions françaises. Pour un Français qui vient d'arriver, qui ne va pas forcément suivre l'actualité en lisant La Vanguardia ou en écoutant TV13, etc., qui va suivre l'actualité en français, il n'y a aucune voix française politique en France qui ne s'est déclarée en faveur de l'indépendance. Le président Hollande est contre, le premier ministre Manuel Valls est contre, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius est contre, il y a un député des Français de l'étranger ici, Arnaud Leroy, qui est socialiste, qui est contre. Donc c'est vrai que le français qui va s'intéresser avec le prisme français ne va pas trouver un seul organe français qui va être en faveur de l'indépendance. Après, c'est vrai qu'il y a la culture aussi française. Déjà, ça paraît incroyable. Alors, vous parliez du Front National. Tiens, je voulais répondre tout à l'heure. J'ai oublié, parce que c'est vrai que c'est le tabou suprême, le Front National et dans l'indépendantisme catalan. Des fois, on essaye de poser la question... Est-ce qu'il y a un bon nationalisme, qui serait le nationalisme catalan, et un mauvais nationalisme, qui serait le nationalisme français? Cette question, nous, en tout cas, Equinox Radio, on n'a pas le droit de la poser. On l'avait posée à l'époque, avant son scandale, au président Pujol, le premier... Jordi Pujol, il n'avait pas voulu répondre à la question en disant « Moi, je ne veux pas répondre, voilà, entre le nationalisme catalan et le Front National, je ne veux pas répondre. » On avait paru un article également en disant « Est-ce qu'on peut comparer le nationalisme catalan avec le nationalisme du Front National ?» C'est une question qu'on ne peut pas poser parce qu'elle vexe les Catalans. Je peux le comprendre, mais c'est une question qui est considérée comme vexatoire. Maintenant, il faut savoir que pour un Français qui arrive ici, qui voit des drapeaux partout aux fenêtres, des drapeaux catalans, c'est quelque chose qui, en France, sera assimilé au Front National. C'est-à-dire que si dans une ville comme Perpignan ou comme Béziers ou Paris, on commence à mettre des drapeaux bleu-blanc-rouge partout aux fenêtres, on va dire ce sont des électeurs du Front National, ce sont des extrémistes. Ici, c'est quelque chose de naturel de mettre un drapeau catalan. Moi, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ça influence aussi les Français qui vont voir tous ces phénomènes ou même des... voilà. Quelqu'un qui va avoir la sonnerie catalane sur son téléphone, l'hymne national catalan sur son téléphone en sonnerie, c'est quelque chose qui serait en France considéré comme de l'extrémisme. On ne peut pas, en France, c'est dans la pensée française, faire une telle démonstration de nationalisme ou de régionalisme sans passer pour un extrémisme. Et c'est valable d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec les langues régionales. Parler catalan à Perpignan ou le breton, tout ça, il y a toujours une petite connotation d'extrémisme. Non, il n'y a pas de drapeau. Alors, il y a eu des drapeaux français dans les manifestations de Charlie Hebdo, il y a des drapeaux français dans les manifestations sportives. Non, t'as pas de drapeau français aux fenêtres à Paris. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Dans les institutions, bien sûr, devant une mairie, etc., etc., sur tous les symboles de l'État, bien évidemment, il va y avoir des drapeaux français. Je parle du citoyen particulier qui ne va pas exposer son amour de la France. C'est aussi. De quoi faut raconter? Mais on le fait. Oui. J'ai pas compris. Alors. Nous, on aimerait bien aussi. Quand on demande aux Catalans d'expliquer leur nationalisme aux Français, disant justement, regarde, nationalisme, ça peut être amalgamé avec extrémisme, qu'on ne nous dise pas toujours, non, vous êtes des insulteurs, c'est scandaleux, vous nous insultez. C'est vrai que c'est une question qui est très difficile. Alors, je ne sais pas ce que Patrick Roquin en pense, par exemple. Parler du nationalisme d'une manière un petit peu extrémiste ou négative, c'est très difficile à ouvrir comme débat. Ah bah quelqu'un après Patrick.
Oui, donc alors moi je suis comme disait Jacine Barbaguet, je suis un catalan de France. Donc pour revenir à ce que disait aussi Gérard, la grande différence entre le nationalisme français et le nationalisme catalan, c'est que c'est l'État. C'est le fait d'être reconnu partout dans le monde. C'est que vous, par exemple, vous allez partout dans le monde, vous montrez votre passeport, on va dire « Ah oui, vous êtes français ». Moi, je montre mon passeport partout dans le monde et on va me dire « Ah oui, tu es français ». Et moi, je vais devoir expliquer pendant une demi-heure que, en fait, je suis catalan. J'ai un passeport français, mais que je suis catalan parce que je suis perpignan. Et c'est ça la différence. Et je veux dire, moi aussi, je veux dire, j'ai une estelade sur mon balcon. Le jour où la Catalogne est indépendante, je ne vais pas la laisser. Je vais la rentrer ou je la sors. Elle sera bien pliée dans un tiroir. Et je pense que c'est ça la différence. Et pour en revenir au drapeau, effectivement, en France, les drapeaux français, ils sont partout dans la rue aussi, hein, à Paris. Moi, je suis d'Idelne, mais j'ai vécu 5 ans à Paris. Et à Paris, la première fois, ça m'a choqué. Je voyais des partout, en plein milieu de la rue, un pal blanc avec un drapeau français. Tous les 100 mètres à peu près, il y en avait un. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la symbologie de l'État. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas besoin de s'affirmer parce que déjà, ils sont reconnus partout dans le monde comme français. Mais par contre, l'État, lui, il a besoin de s'affirmer pour montrer sa force. Et il le fait à travers les drapeaux français. Donc c'est pour ça que la grande différence, elle est là. C'est que les Catalans, ils n'ont pas d'État. Donc ils doivent la force du peuple catalan, ils doivent la démontrer eux-mêmes au niveau individuel. Donc ça, c'est une chose que je voulais répondre. Et bon, juste un petit détail aussi pour dire que les gens, s'ils avaient la sonnerie sur le téléphone, ça choquerait. Moi, juste après les attentats qu'il y a eu de Charlie Hebdo, une chose qui m'a choqué, c'est que les députés se sont mis tous droits en chantant la Marseillaise. Bon, ça m'a paru bizarre. Et en plus, après, j'ai appris que ce n'était pas fait depuis 80 ans, et c'était à la suite de la Première Guerre mondiale, je crois, que ça avait été fait. Donc, c'est... Et je pense que ça, bon, ça serait un autre débat, hein, mais ça explique aussi peut-être en partie le fait que le Front National a gagné la guerre des idées à ce niveau-là, quoi. Donc, juste pour revenir au tout début, je pense qu'il y a une chose sur laquelle Patrick est un peu passé rapidement, pour expliquer aussi la montée de l'indépendantisme, c'est que je pense qu'en fait, c'est les sociétés, la société catalane et la société espagnole sont très différentes, et c'est ce qui justifie maintenant la constatation par les gens d'une incompréhension entre les deux. Par exemple, au niveau de la société, par exemple, en Espagne, la tauromachie, c'est une institution, quoi. J'ai preuve, ils l'ont réinstauré il y a quelques jours, en horaire infantile. Et alors qu'au contraire, en Catalogne, c'est commun de tous les gens de dire, bon, la tauromachie, c'est quand même... c'est quelque chose du passé, quoi. Ça devrait plus exister, quoi, maintenant. Donc ça, c'est un exemple au niveau de la tauromachie. Ça l'est aussi au niveau de la langue, le fait qu'à Madrid, ils ne comprennent pas que les Catalans puissent parler catalan. Ils pensent que les Catalans parlent catalan pour emmerder le monde, basiquement. Ou pour se différencier. Ils ne peuvent pas imaginer qu'ils sont différents. Aussi au niveau économique, la structure de l'économie catalane et la structure de l'économie espagnole est complètement différente. L'économie espagnole est centralisée à Madrid, c'est des grands oligopoles avec une administration un peu administrative, alors qu'en Catalogne, c'est des PME. Ça explique aussi les différences de besoins entre le corridor Méditerranée et au contraire, le fait de centraliser tous les moyens de transport sur Madrid. Et donc je pense qu'en fait la clé de l'actualité, c'est là, en fait, c'est que les deux sociétés sont complètement différentes, et c'est deux sociétés qui ne se parlent plus, et où quand elles se parlent, c'est pour s'insulter. Par exemple, aussi, c'est un petit détail, mais ça parle beaucoup. Chaque fois qu'il y a le Barça qui va jouer dans un autre stade partout en Espagne, il n'y aura pas un moment où il n'y aura pas les spectateurs qui chanteront « Puta Barça et puta Catalogne ». Bon, ça, par exemple, en France, ça n'existe pas, ça. Même, je crois qu'entre la rivalité qu'il y a entre le Paris Saint-Germain et l'OM, j'ai jamais vu ça. Et donc, je pense que ça explique... C'est des petits détails, mais qui montrent à quel point il y a une différence entre les deux. Donc, voilà. Merci.
Non, juste une seconde avant de laisser la parole à Patrick Roca, je veux dire au monsieur qui demandait à ce qu'on fasse de la pédagogie, juste pour informer que le débat est enregistré ainsi que vos interventions et qu'elles seront diffusées lundi à 22h sur Equinox Radio. Donc voilà, ça permettra aussi à tout le monde de pouvoir écouter.
Voilà, Nicolas Salvador va dire encore que je suis un indépendantiste policé, mais c'est vrai que je crois que mais je dis toujours ce que je pense. C'est vrai que je crois que c'est une profonde erreur des Catalans d'avoir utilisé le terme nationaliste pour se décrire eux-mêmes. Une immense erreur, parce que je ne connais aucun pays au monde qui utilise ce terme de façon positive. Et personnellement, moi, ce qui m'a convaincu de devenir indépendantiste, c'est à l'époque où José Pius Carrubira écrivait ses articles dans La Bouille, où il disait que lui n'était pas nationaliste. Il est catalan. Et en tant que catalan, donc il veut l'indépendance de son pays. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à expliquer que cette idée de nationalisme qui est incompréhensible, je crois, à l'étranger. Parce que ce qu'on veut décrire, en fait, c'est un nationalisme de défense de la nation, c'est-à-dire empêcher la disparition de la nation. Et ça, je pense que n'importe quel Français peut comprendre que si on lui disait qu'à partir de demain, donc, la France fait partie du Royaume-Uni et que l'anglais devient l'unique langue officielle, ça va très très mal passer.
Oui. Je sais juste vous préciser un peu le débat sur lequel on est, parce que la science politique l'a théorisé. C'est pas que les Catalans ont un défaut et qu'on appelle nationalisme une chose qui ne l'est pas. En fait, il n'y a pas de parti nationaliste catalan, au contraire que dans le Pays Basque, par exemple. Mais la question, c'est qu'on distingue entre les deux types de nationalisme. Le nationalisme qui lutte pour un État propre et un nationalisme qui est sur la xénophobie, sur la haine des autres, etc. Donc on distingue bien dans la science politique. Une autre chose, c'est que dans les médias, dans les personnes politiques, par exemple, on a vu récemment en Espagne qu'on a dit que les indépendantistes sont des nazis, parce que ce sont des nationalistes. Donc là, on joue à confondre. Mais sur la théorie, la science politique, c'est clair. Et tout ça, bon, qu'on appelle ça nationalisme, ça vient du président Wilson, du principe de nationalité après la Première Guerre mondiale. Donc ça, une justification.
J'entends qu'on a parlé d'occupation.
Oui.
Les drapeaux espagnols dans les édifices, pour moi, c'est une occupation. Pour moi, nous vivons dans cet état, nous vivons occupés par les Espagnols. La Catalogne, c'est la dernière colonie de l'État espagnol, et c'est pour ça qu'on doit être indépendant.
Et ça, est-ce que vous comprenez que ça peut faire peur à certains d'entendre ça?
Pourquoi? Peur de quoi? On va être un État indépendant comme la Dinamarquie. Comme la Dinamarque, c'est pas de problème, une économie très bonne. Les premiers 10 ans, non. Mais après, il n'y aura pas de problème. Comme ça. On doit penser que toutes les sociétés, pour évoluer, on doit être indépendant. Les pays baltiques, les premiers 10 ans, ils ont été une crise économique très forte. Mais ils vivent dans la liberté qu'ils n'auraient pas dans le monde soviétique.
Je n'allais pas parler, mais finalement... La fièvre, non, va pas mieux, mais c'est pas grave, c'est peut-être pour ça que je veux dire des bêtises. Non, simplement dire que je crois qu'on est là, en principe, dans une logique de compréhension-non-compréhension. Est-ce qu'il y a une volonté de compréhension ou pas? C'est-à-dire, chacun de nous a une expérience personnelle, que ce soit en venant vivre ici à Barcelone, que ce soit en allant vivre en France. C'est mon cas, c'est le cas de plusieurs. Et tous, nous savons que dans les années 90, personne ne s'interrogeait vraiment sur ce qui se passait ici, même si oui, vous êtes catalan, tout ça, et qu'il y a une évolution de cet intérêt, au moins de cette curiosité qui se passe. Au-delà des concepts genre nationaliste, indépendantiste, ce qui est vrai qu'ici, l'intérêt vraiment de ce qui se joue, au moins de l'intérieur, et donc c'est mal expliqué puisque ça n'arrive pas à être bien compris ailleurs, c'est qu'il y a un parti nationaliste, mais la plupart des partis qui veulent l'indépendance sont indépendantistes, mais ne sont pas nationalistes. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas le côté ringard, ils ne cherchent pas les drapeaux, etc. La grande différence avec l'Écosse, c'est que là-bas, ça a été un seul parti nationaliste qui a proposé de faire le référendum et qui a porté en avant tout ce processus. Ici, ce n'est pas le cas. C'est des gens, même si vous avez vu la chaîne humaine, des gens âgés, des gens jeunes, de gauche à droite, de syndicats de gauche à des gens de droite, qui étaient pour la même chose. Ils ne sont pas nationalistes. Il y a un parti nationaliste, mais le reste, pour en dire peut-être maintenant le 80%, ne sont pas nationalistes. Ils sont pour un objectif. Il y a des gens qui disent que c'est un instrument, il y a des gens qui disent que c'est un objectif, etc. Autrement dit, dans cette vision de compréhension, c'est très difficile. Et ceux qui sont... Nous avons grandi dans la formation française, qui est mon cas, même si je suis catalan. C'est très difficile d'éliminer, et même quand on parle avec, encore aujourd'hui des Français, cette perspective du monde, c'est-à-dire un État, ça doit être comme la France. Et ce n'est pas une critique négative, c'est normal. C'est-à-dire on grandit dans une culture, une grande culture, une très grande littérature, une très grande formation depuis qu'on est petit de ce qu'on est. Et là, par exemple, les grands exemples autour de la France sont dans le livre de, par exemple, de Michael Bilk quand il parle du nationalisme banal, ou de Eugène Weber quand il parle de la construction du soldat ou du citoyen français entre 1870 et 1914, c'est-à-dire avec cette formation contre-identitaire contre l'Allemagne. Donc, il y a une chose qui est intériorisée. Par exemple, ne pas voir les drapeaux, ne pas voir les monuments morts, par exemple, là, il y en avait, etc. C'est normal, mais ils y sont partout. Partout en France, excepté un seul village. Partout, ici, non. Donc c'est une construction absolument différente, l'État français et l'État espagnol. À la fin du 19e siècle, tu avais les trains, tu avais le Correos, tu avais tout qui est à la poste qui arrivait partout en France, ici, non. En France, il y a eu des communications, ici, non. Donc ce qui a fait que la construction était complètement différente, même dans l'intériorisation de ce qui est un Français et ce qui est un Espagnol. Dans ce sens, et en arrivant aujourd'hui, il y a quelques mois, j'étais à un grand congrès à Lille et à Bruxelles sur la question des frontières au niveau international, mais surtout, c'était, les gens qui organisaient ça, c'était la MOT, donc la mission opérationnelle transfrontalière française, et pour la première fois, ils étaient absolument intéressés à ce qui se passe ici. Évidemment, logiquement, ils ne sont pas pour l'indépendance, ils disent non comme tous les ministres que vous avez cités, ce qui est normal, mais étant donné si un jour la chose arrivait, est-ce qu'ils vont dire non ou pas? Est-ce qu'ils vont simplement dire ben, il faut y passer, l'Europe doit décider ou pas? Évidemment, chacun a une opinion, mais ce qui est clair, et ce que tout le monde disait, j'avais parlé en ce sujet avec le consul de français à Bruxelles, il me disait, il faut comparer, par exemple, ils comprennent les rêves, ils n'arrivaient pas à comprendre, en tant que diplomate, pourquoi la négation de Rajoy, du Parti populaire et d'une grande partie de l'Espagne, de 3, 4, 5 ans de manifestations, non pas en négatif, en contre, je pense que la dernière manifestation négative dans le sens contre quelque chose, c'était en 2010, contre la sentence du tribunal constitutionnel, mais depuis, c'était des manifestations pour quelque chose, pour construire quelque chose. Et voir des manifestations de 1 million de personnes, et même 2 millions de personnes, qui en France seraient hallucinant, même à Paris, c'est, si on fait la comparaison, 2 millions sur 5 millions en Catalogne, c'est comme si 10 millions de Français s'étaient manifestés à Paris. Donc, uniquement en disant ça, ils n'arrivaient pas à comprendre, eux, politiques, comment ça se fait que le gouvernement espagnol n'agit pas, même dans le sens du dialogue, à donner la parole à ceux-là. Ce qu'ils voulaient dire, c'est nous, on est contre l'indépendance, mais on peut arriver à comprendre, à parler lorsqu'il y a ce mouvement social qui n'est pas nationaliste, mais qui est transversal. C'est un petit peu ça, surtout dans cette idée de compréhension réciproque.
Je ne vais pas expliquer toutes mes pensées, mais il y a un fait. Les premiers chemins de fer en Espagne, c'était les bourgeois de Mataró qui se sont cotisés en 1828 ou 1930 pour payer un chemin de fer entre le port de Barcelone et Mataró pour faciliter les importations et exportations. Les Castillans ont réagi, bien entendu, 20 ans après. Et vous savez quel était le premier train ? Madrid-Aranjuez pour que le roi puisse passer les vacances à Aranjuez en train. C'est ça la différence.